Pour moi, le développement personnel, c'est on s'éveille, c'est une première étape, on prend conscience de certaines choses, mais c'est pas ça qui nous change nécessairement comme personne. Il y en a pour qui, oui, ça apporte des changements, mais à un moment donné, ces changements-là aussi stagnent, puis font un plateau, puis il y a tellement plus qui est possible pour l'humain, là. C'est le plein potentiel humain, on s'entend qu'on touche à un très petit pourcentage. Puis moi, j'ai toujours eu cette énergie à l'intérieur de moi qui sait que je suis venue ici pour accomplir beaucoup, puis qui est très consciente que notre monde a besoin d'évoluer beaucoup et vite, là. T'sais, on ne peut plus attendre, là. L'évolution tranquille puis lente des dernières centaines d'années, ça ne marche plus cette affaire-là. Là. On accélère le rythme, puis il faut que les gens évoluent là, vraiment plus rapidement.
Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 31. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Bon lundi, bonne semaine qui débute si vous écoutez ça alors que l'épisode sort. Aujourd'hui, on parle de développement personnel, de succès et même de succès infini avec nul autre que Mélissa Maillé, qui est coach pour femmes spirituelles et ambitieuses qui veulent créer des possibilités infinies pour leur entreprise et leur vie. Mélissa a été ma coach personnelle aussi. J'ai suivi ses programmes de groupe, mais aussi j'ai eu de l'accompagnement individuel avec elle. Et pour quelqu'un comme moi qui est très terre à terre, j'avoue que au début, j'étais pas sûre si j'allais vraiment adhérer à une approche qui est aussi spirituelle, aussi visionnaire, je dirais, parce que je trouve que, bon, moi j'ai besoin quand même de concret, j'ai besoin que quelqu'un me montre aussi que, tu sais, on n'est pas en train de me faire croire des choses qui n'ont pas été testées ou des choses comme ça. Puis avec Mélissa, j'ai vraiment retrouvé ça à travers non seulement les commentaires que j'avais eus de d'autres personnes qui avaient été coachées par elle, mais aussi son approche qui est très... elle est très straightforward. Elle va te dire les choses comme elles sont, tout en te permettant d'ouvrir tes horizons, tu sais, d'une façon quand même assez soft, à ton rythme, pour aller explorer s'il y a des choses qui pourraient te servir dans des méthodes qui pourraient être un peu plus justement axées sur le développement de la spiritualité ou le développement personnel. Alors cette semaine, dans l'entrevue, on va être avec Mélissa en fait pendant deux semaines, cette semaine puis la semaine prochaine. Puis cette semaine, je voulais vraiment parler de la genèse et la construction de son business qui était autant basée sur une intuition fondamentale, mais aussi sur une vision sur la libération justement de ce potentiel humain qu'on avait en nous, puis comment elle a passé à travers ces étapes, comment elle a rencontré certains obstacles, non seulement dans l'environnement ou dans la façon dont les choses étaient faites, mais aussi dans elle-même, les petites montagnes qu'elle a dû surmonter à travers la création justement, bon, non seulement de sa méthode succès infini, qui justement elle permet d'identifier et libérer la source des obstacles intérieurs au succès, mais aussi la création de sa certification succès infini et puis les différentes formes que son entreprise a pris au fil du temps. Je trouve que c'est une histoire extrêmement intéressante, surtout si vous êtes de près ou de loin dans le développement personnel, mais aussi si vous voulez repenser à qu'est-ce que ça veut dire innover dans certains domaines. Parce que c'est pas vrai qu'on doit tout le temps faire les choses de la même façon, puis c'est pas vrai qu'on doit suivre un modèle nécessairement. Puis Mélissa est un bel exemple de comment elle a pu, je dirais, prendre ce qui était d'utilité dans chacun chacune des expériences qu'elle a faites, mais dans les différentes choses qu'elle a vues qui étaient faites ailleurs, qui pourraient être retransmises sous sa propre saveur. Et puis bon, c'est super intéressant d'en apprendre un peu plus sur son parcours. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Je vais laisser Mélissa parler et je serais curieuse de savoir comment vous vivez avec votre spiritualité ou votre propre développement personnel en lien avec le succès. Est-ce que vous faites des choses? Est-ce que vous suivez des coachs? Est-ce que vous lisez des livres? Et juste avant de terminer, je vais laisser quand même les liens pour suivre Mélissa qui sont tous à la fin de cet épisode à mtamark.com/31. Mais vous pouvez naturellement suivre Mélissa sur Facebook. Elle fait souvent des lives si vous voulez avoir un petit peu un aperçu de comment elle coach, ce qu'elle fait, les messages qu'elle a à passer. Elle est aussi très présente sur Instagram et récemment, elle a ouvert les portes à un tout nouveau programme qui s'appelle Créatrice du Nouveau Monde et je vous invite à aller visiter son site pour en savoir plus. Alors, bonne écoute et on se reparle la semaine prochaine. Salut Mélissa, bienvenue sur l'ambition au féminin. Je suis contente de jaser avec toi dans ce contexte.
Moi aussi, Tatiana.
Parce que bon, pour être 100% transparente, j'ai été la cliente de Mélissa et je le suis encore à travers ses programmes. Donc, on a une relation coachée-coachy. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de toi, de ta merveilleuse entreprise et de ton parcours, mais aussi de toi, la femme qui est arrivée aujourd'hui à où est-ce que tu en es. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation avec toi. Alors, petite question brise-glace. Je pose tout le temps une question un petit peu random. Puis là, celle que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite?
J'ai longtemps voulu être comédienne.
OK.
J'ai longtemps voulu être comédienne. J'ai même fait mes études en théâtre. J'ai fait mes auditions pour les écoles de théâtre.
Oh, ouais.
Pendant un bon moment, c'était ça. Ouais.
OK.
Ouais, j'ai fait mes premiers cours de théâtre au primaire. Puis après ça, l'idée m'est restée au secondaire, au cégep, jusqu'à l'université. Parce qu'à l'université, j'ai commencé par un certificat en scénarisation cinématographique. C'est juste pour passer le temps en attendant que je faisais mes auditions de théâtre. Finalement, les auditions n'ont pas fonctionné et moi, j'ai réalisé en faisant mes auditions que c'était vraiment pas le milieu dans lequel j'avais envie d'être. J'aimais m'exprimer, j'aimais le théâtre, mais j'aimais pas du tout les écoles de théâtre. Donc, finalement, j'ai mis ça de côté.
C'est intéressant parce que je trouve toujours ça intéressant de demander cette question-là parce que, tu sais, comme j'ai l'impression que le fait d'être hyper dans l'empathie en tant que comédienne, puis un petit peu ta job de coach aujourd'hui, il y a quand même le même filon d'intérêt pour l'humain puis l'émotion humaine. C'était quoi qui t'attirait dans ça, là?
Ben, définitivement, les émotions. Différentes émotions humaines, interpréter différentes émotions humaines. Prendre la peau de différents personnages, pouvoir devenir qui on veut être, dans le fond, qui on veut. Tu sais, quand tu incarnes un personnage et que tu peux devenir n'importe qui, soudainement, j'ai toujours adoré vraiment ça. Fait que oui, effectivement, ça se transpose très bien au coaching où ça fait partie de mon message que tu peux changer qui tu es, puis c'est de cette façon-là que tu vas créer les résultats que tu veux. Puis c'était ça en théâtre, c'est ton jeu. Puis qui tu es va créer une réaction puis des résultats dans la salle. Puis si ça ne crée pas de résultats, si ton énergie, c'est vraiment ça. Si ton énergie ne crée pas de résultats, ben la salle ne réagit pas. La salle passe pas le moment. Si ton énergie est alignée avec ton personnage, ça crée un moment extraordinaire.
Intéressant.
Il y a définitivement des choses qui se répètent.
Ouais, non, c'est ça, t'es pas devenue comédienne à la télé, mais tu personnifies pas mal de choses. C'est quoi pour toi l'ambition? Une autre grosse question.
Oui, très intéressant. Pour moi, l'ambition, ça part d'une vision. Ça part de désir qui on ne sait pas toujours d'où ça vient, cette vision-là ou ces désirs-là, mais ça nous vient, puis on sait à l'intérieur de nous que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut être, c'est ce qu'on veut accomplir. Puis pour moi, l'ambition, c'est le moteur qui nous aide à accomplir cette vision.
Intéressant. Puis quand est-ce que, bon, juste pour revenir un petit peu à ton parcours, comment est-ce que tu en es devenue, comment tu es rentrée dans le monde du coaching?
C'est intéressant. J'avais un contrat qui se terminait dans une entreprise. Et puis, je savais que je voulais me lancer à mon compte. Je commençais à comprendre que moi, ce que j'aimais, c'était créer des projets, mais que je n'allais pas m'épanouir dans le monde de l'entreprise. Et puis, j'ai fait une formation en massothérapie, mais je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire. Puis, à peu près au même moment, j'ai découvert des coachs aux États-Unis. J'ai réalisé que finalement, c'était ça le métier que je voulais faire, mais que je ne savais pas que ça avait un nom. T'sais, je le voyais dans ma tête, je le sentais ce que je voulais faire. Je voulais accompagner les gens, je voulais faire une différence, je voulais les aider à améliorer leur vie, à vivre leur plein potentiel. Je savais pas que ça avait un nom jusqu'à temps que je trouve des gens qui faisaient ce métier-là.
C'était à peu près dans quelle année, là, juste pour qu'on se situe un petit peu?
Oh mon Dieu, je pense que c'était en 2009. Okay. En 2009, ma découverte du coaching. Après, ça m'a pris plusieurs années avant de faire une formation. Parce que je trouvais pas ce qui me parlait. Moi, l'approche américaine, c'était ce qui me convenait. Mais les formations américaines étaient extrêmement coûteuses. Mm-hmm. Donc, ça m'a pris plusieurs années avant de pouvoir faire une formation.
Tu voyais de la différence entre l'approche américaine puis ça serait quoi, une approche plus européenne? Je sais pas, parce que je connais pas trop...
Ouais, ben au Québec, à ce moment-là, c'était surtout de la PNL. Mm-hmm. Puis la façon dont la PNL était présentée, puis je trouve qu'elle est même encore présentée, c'est très, très rationnel, pragmatique. Puis pourtant, j'ai été coachée en PNL cette année, puis j'ai eu une toute autre vision. Finalement, c'était plus simple que ce que je pensais. Mais je pense qu'au niveau de leur formation puis des concepts, là, c'est très mental. Moi, ça me convenait pas du tout. Aux États-Unis, c'est de l'inspiration. C'est aider les gens à changer leur vie dans cette énergie d'inspiration, de plein potentiel, de « on peut tout réussir, on peut tout faire ».
Ouais, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un moment donné dans ma vie aussi, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un métier qui s'appelait « coach de vie ». Puis on dirait que ça ne s'utilise plus vraiment. Ben, je ne sais pas si c'est ici au Québec parce que je l'entends quand même aux États-Unis des fois, mais cette espèce de concept de « coach de vie
ouais. »,
tu sais... Comment est-ce que toi, tu qualifies ton coaching?
Très bonne question. Je te qualifierais de coaching de transformation. Mm-hmm. Parce que j'amène les clientes à se transformer. Au fil des mois ensemble, on passe vraiment de A à... Pas à Z, parce que Z, c'est le cheminement de vie. Exactement, mais il y a vraiment une transformation. Il y a un avant et un après. Mm-hmm. C'est de cette façon-là que je le qualifierais. Donc, je m'adresse aux entrepreneurs. Puis pour moi, c'est l'alignement de qui elles sont qui va ensuite s'aligner avec leur stratégie d'affaires, vice-versa. Mais tout part de la personne.
Mm-hmm. Oui, puis j'ai l'impression, bon, je sais pas, par rapport à ton cheminement, parce qu'il y a eu un temps où tu étais plus qualifiée comme un coach d'affaires. Puis là, après ça, ça a évolué. Puis je voyais justement ton post Instagram, je pense que c'était hier, là, où est-ce que tu disais, oui. Tu sais, j'ai évolué, c'est plus mon positionnement que j'avais. Voici qui je suis aujourd'hui. Puis oui. Que ton approche, justement, avec tes clientes puis tout ça, a beaucoup... s'est fluidifié, on dirait, à travers le temps.
Oui. Puis, effectivement.
Puis je trouve ça intéressant par rapport à ton idée de l'inspiration. Donc... Pour toi, ton cheminement de coach, ça a été justement de recevoir beaucoup plus de ta clientèle, de t'inspirer de d'autres gens. T'sais, comment tu as vu ton propre cheminement à travers ça?
Ben, ce qui me vient, c'est que quand j'ai commencé à coacher des entrepreneurs, j'étais beaucoup dans la fluidité, puis dans l'expression de soi, puis dans les justement déjà dans les possibilités infinies. J'avais un branding... rose avec une robe à paillettes en, puis briller, puis tout ça. Puis, je pense que j'ai commencé à me sentir mal parce que je recevais un peu de feedback négatif quant à qui elle, c'est quoi sa crédibilité, mm-hmm. elle sort de où, qu'est-ce qu'elle a vraiment nous apporté. Et que j'ai voulu rendre la chose pas mal plus sérieuse pour prouver aux gens que j'étais crédible. Donc, j'ai laissé de côté toute l'expression de qui j'étais pour aller vraiment dans un créneau plus coach d'affaires. Bon, je suis toujours restée fidèle à moi-même dans un sens où j'ai trouvé une façon de faire à mes couleurs, puis de toujours amener mon approche de transformation personnelle à travers tout ça, de développement personnel. Mais je me suis vraiment mis dans une case plus coach d'affaires. Parce qu'il y avait ce feedback de l'extérieur, puis je sentais que ça passait pas tout à fait bien au Québec à ce moment-là de voir une fille qui réussissait, qui faisait mm-hmm. autant d'argent parce qu'elle se montrait en robe à paillettes sur le web. Et puis ça, on l'a vu, même Mélissa Normandin-Roberge, qui a une entreprise extraordinaire, tous les commentaires négatifs qu'elle a reçus au départ.
Ouais, tu penses que c'est une question de timing ou vraiment une question d'être une femme qui a du succès?
Je pense que c'est une question... Les deux, je te dirais. Ouais, il y a du timing, définitivement. Définitivement. Puis ça prend énormément d'énergie pour combattre toute cette force extérieure. Puis moi, à ce moment-là, j'avais pas mm-hmm. cette énergie-là. J'avais probablement pas la confiance non plus. Fait que j'ai préféré aller vers quelque chose d'un peu plus safe. C'est correct, j'ai bâti mon nom comme ça. Mais oui, une femme qui a du succès, une femme qui a du succès facilement par le web, puis qui sort un peu nulle part. Il y avait beaucoup à ce moment-là cette mentalité de il faut travailler fort. Peu de gens auprès des entrepreneurs connaissaient vraiment ce qu'il y avait à faire au niveau du marketing. Là. Ils s'étaient lancés, tu sais. Puis c'était le bouche à oreille. Ça, c'était la stratégie d'affaires. Le bouche à oreille. Ou aller porter ses cartes d'affaires dans un commerce. On part de loin, là. Moi, j'arrivais avec mes stratégies américaines, là. Fait qu'il y a eu un genre de clash, là, pour les gens. Fait que c'est pour ça, là, que j'ai évalué que je change un peu mon positionnement pour qu'ils gagnent confiance en moi avec une image qu'ils connaissaient un peu plus de coach d'affaires pour que je les familiarise avec ces stratégies américaines qui étaient vraiment plus dans la visibilité, avancer dans la visibilité, dans le branding personnel, dans le message, la communication.
Ouais, dans la connexion qui est possible aussi avec le web, qui n'était pas nécessairement ouais. utilisé à son plein potentiel, justement, dans le temps où est-ce que tu avais une vitrine de site web pour justement imprimer des cartes d'affaires puis aller les porter après
oui,
ça, de ça.
Des pamphlets, tu sais.
Ouais, les... Oh my God! Une chose, j'ai jamais eu à faire des pamphlets dans ma vie, mais bon. Puis, c'est intéressant aussi, je trouve, qu'après ça, bon, t'es tout le temps, on dirait, un one step forward par rapport justement à comment appliquer les stratégies américaines dans... ben là, je vais dire la francophonie, là, mais je vais dire... Ouais. Ben ouais, on va dire la francophonie parce que t'as beaucoup ouais. de clientes aussi européennes, en Belgique, en France, etc., puis, après ça, t'as fondé Succès Infini.
Oui.
Puis ça, ça a été un autre move qui a été inspiré par les Américains ou...
Pas du tout.
Non? OK.
Ben, je dis pas du tout. Un peu tout de même parce que je voyais beaucoup d'entrepreneurs spirituels aux États-Unis qui commençaient à prendre leur place. Quand je dis spirituel, c'est avec une approche plus énergétique. Mm-hmm. Puis moi, ça m'a réveillé ce que je cherchais puis ce que je sentais qu'il me manquait dans mon entreprise. Et moi, les années précédentes, j'ai commencé à aller chercher différentes méthodes, à apprendre différentes méthodes, mais je trouvais pas ce que je voulais. Je savais vraiment que mes clientes avaient des blocages, là, que même si on faisait juste du EFT, du tapping ensemble, avec des affirmations, c'était pas suffisant. Il fallait aller plus loin. Donc, j'ai appris d'autres approches énergétiques, je les ai essayées avec mes clientes, puis c'était pas tout à fait ça, il manquait des choses. Donc finalement, après avoir appris plusieurs méthodes, j'ai pris ce qui fonctionnait de chacune de ces méthodes-là, puis je les ai mises ensemble. Mm-hmm. Donc oui, d'un côté, inspiré par les États-Unis, où la spiritualité avait une toute autre couleur, beaucoup plus moderne que dans la francophonie. Puis là, je te parle de même il y a encore 2 ans, tu sais, je te dirais 2 ou 3 ans. C'était dans les 3 dernières années, je trouve que ça s'est vraiment beaucoup modernisé dans la francophonie au niveau de la spiritualité puis de l'énergétique. Mais sinon, c'était très, très vieux comme énergie. Mm. Moi, ça m'a donné un point de repère. Ça a mis une image puis des mots sur ce que je voulais accomplir, ce que je voulais créer. Puis c'est de là où ça m'a inspiré Succès Infini.
Ouais, puis je pense que quand j'ai dit inspiré par les États-Unis, c'était plus le modèle de certification. Je sais pas si c'était, tu sais, je veux dire, je pense que ta méthode est quand même assez unique, mais parce que quand même c'est un modèle d'affaires intéressant pour la croissance de ton entreprise
oui,
aussi.
Vraiment, vraiment. Puis en même temps, j'ai pas vu tant de personnes encore, même aux États-Unis, être dans le modèle de certification. Les gens sont un peu timides, ils se sentent pas tout à fait légitimes de faire ça. Moi, je l'ai vraiment fait parce que je voyais à quel point cette méthode-là allait pouvoir aider le plus de gens possible. Puis je voyais que même mes clientes, dans l'accompagnement de leurs clientes, étaient limitées, qu'ils atteignaient un plateau là, dans ce qu'elles pouvaient faire avec leurs clientes. Mm-hmm. Et que c'était vraiment dans ce but-là de donner un outil qui allait aider les gens à se transformer encore plus. Là. Parce que le développement personnel, mm-hmm. je le voyais, là, ça a un plateau, là, cette affaire-là. Là. Mm-hmm.
Puis, un plateau à cause des outils qu'on a ou auxquels on a accès ou un plateau par rapport à notre propre ouverture?
Je dirais à cause des outils.
OK.
Pour moi, le développement personnel, c'est on s'éveille, c'est une première étape, on prend conscience de certaines choses, mais c'est pas ça qui nous change nécessairement comme personne. Il y en a pour qui, oui, ça apporte des changements, mais à un moment donné, ces changements-là aussi stagnent puis font un plateau, puis il y a tellement plus qui est possible pour l'humain, là. C'est le plein potentiel humain, on s'entend qu'on touche à un très petit pourcentage, puis moi, j'ai toujours eu cette énergie à l'intérieur de moi qui sait que je suis venue ici pour accomplir beaucoup puis qui est très consciente que notre monde a besoin d'évoluer beaucoup et vite. Là. T'sais, on ne peut plus attendre. Là. L'évolution tranquille puis lente des dernières centaines d'années, ça ne marche plus cette affaire-là. Là. On accélère le rythme puis il faut que les gens évoluent là, vraiment plus rapidement. C'était cette idée aussi avec Succès Infini.
Puis je suis intéressée à savoir comment tu perçois justement cette évolution au niveau personnel.
Ça, dans un contexte d'entreprise ou de façon générale?
De façon générale.
OK. Moi, je vois vraiment la transformation personnelle qui part de toutes les croyances puis de toutes les émotions qu'on vit puis qu'on accumule puis qui créent des programmes en nous puis qui créent des obstacles intérieurs puis qui nous empêchent d'avancer puis de réaliser ce qu'on veut puis d'être qui on est vraiment. Puis si on accumule ça depuis le jour 1 de notre naissance, on n'a pas besoin d'aller libérer tout depuis le jour 1. Mais il y a des morceaux importants, puis on continue de s'en ajouter à cause de notre façon de penser, à cause de notre façon de voir les choses, parce que la société nous a conditionnés de cette façon-là, nous a mis énormément de limites. Tu sais, j'en parlais avec mon conjoint dernièrement, juste le fait d'être assis dans une salle de classe 8 heures par jour entre 4 murs pendant je ne sais pas trop combien d'années, à quel point ça limite le potentiel humain. Donc, on a appris à se limiter. On n'a pas eu le choix de se limiter. Fait qu'il faut aider les gens à se libérer de toutes ces limitations-là pour être capable de se déployer pleinement comme être humain.
Puis, est-ce que tu penses que cette mission-là, dans un certain sens, est-ce que tu penses que l'individuel est fondamentalement collectif? Donc, si on s'élève en tant qu'individu, la collectivité va s'élever ou qu'il va quand même y avoir des... Tu sais, on va garder des grands... Tu sais, comme... là, je pense, mettons, juste au modèle économique où est-ce que, genre, plus il y en a qui deviennent riches, plus ça exacerbe la pauvreté ailleurs ou des choses comme ça. Oui. Fait pour toi, est-ce que le développement personnel, ça a ce genre de privilège-là aussi de créer des gaps, disons.
C'est intéressant. C'est une conversation que j'ai avec plusieurs clients en ce moment. Je pense qu'il y a des choses qui vont devoir changer dans le monde de la transformation, du développement personnel. Il y a eu pendant longtemps la tendance d'aller vers du haut de gamme dans nos tarifs et tout ça, et à aller vraiment là, à des prix même pas accessibles pour la plupart des gens dans la francophonie. Je pense que ces tarifs-là ont lieu d'être pour certaines clientèles, puis je pense qu'il y a une façon d'être vraiment bien rémunéré pour ce qu'on fait. Mais tu sais, on peut pas aller de la même façon que les États-Unis vont, puis même de leur côté, je pense que ça crée définitivement des gaps, ça crée une genre de bulle, de la même façon qu'il y a une bulle immobilière, ça crée une bulle dans le monde du coaching. Donc effectivement, le coaching, le développement personnel qui devient accessible juste à une certaine partie de la population. Et je pense qu'avec le web, on peut définitivement éviter ça. On peut créer des produits à différents tarifs. Quand on commence, c'est certain qu'on doit privilégier la croissance de notre entreprise. Puis éventuellement, on s'élargit, puis on est capable d'aller toucher à plus de gens avec des produits plus accessibles. Mais oui, il y a un danger que ça crée un gap définitivement. Si on tombe dans un modèle où on exclut beaucoup de gens de notre société. Parce que là, dans le monde du développement personnel, ça devient comme une petite famille là, qui se tient ensemble. Et puis, je ne serais pas étonnée que certaines personnes sentent qu'elles n'ont pas leur place dans cette famille-là. Parce qu'on se plaît bien aussi dans notre monde. Donc, c'est créer cet univers-là pour être dans une réalité qui nous convient, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens à l'extérieur. Il faut rester disponible pour ces personnes-là d'une façon ou d'une autre. Ça ne sera pas un rôle de tout le monde non plus. Mais je pense que plus on a du succès avec notre entreprise, plus on doit se questionner. Comment est-ce que je peux m'ouvrir à plus de gens et rester disponible aussi? Qu'est-ce que je peux créer pour rester disponible à d'autres personnes qui voudraient s'intégrer dans cette réalité-là qui est le développement personnel, qui est l'ambition de soi et tout ça. Donc, oui. D'où la raison où j'ai décidé d'ouvrir certains de mes programmes à des femmes, pas juste aux entrepreneurs. J'en étais rendue là aussi.
Oui, puis c'est intéressant, ça mène à ma question aussi de est-ce que c'est les femmes qui t'ont choisi ou tu as choisi les femmes en tant que public?
J'ai choisi les femmes.
Pourquoi?
Puis les femmes m'ont choisi, je te dirais. C'est juste naturel pour moi. C'est vraiment naturel pour moi. Puis, quand je me suis lancée sur le web, j'étais quand même ouverte à avoir des clients hommes. Puis, finalement, tout ce qu'il y avait sur le web, c'était des hommes qui n'avaient pas les bonnes intentions. Donc, oui, qui des fois se présentent comme étant des clients potentiels, mais qui dans le fond, ont une envie de séduction derrière. Puis, donc, encore la raison aujourd'hui pour laquelle je coach très peu d'hommes. Ce sont des hommes que je connais et dont l'énergie, l'intention est très claire. Puis c'est plate de dire ça en 2020. C'est vraiment plate de dire ça en 2020. Puis je veux pas mettre tous les hommes dans le même panier, mais c'est la réalité. Puis il y a aussi ce que j'ai vu, c'est des hommes qui se sentaient très intimidés aussi par le fait que j'avais plus de succès qu'eux. Donc, eux qui travaillaient fort comme des déchaînés à avoir du succès avec leur entreprise, puis moi, qui réussissais pas mal plus facilement qu'eux, puis en faisant des revenus pas mal plus élevés, il y avait un inconfort de leur part de se faire coacher par moi, fait qu'ils préféraient se faire coacher par un homme ou un coach d'affaires qui a un succès ordinaire.
Je trouve ça, en tout cas, un jour, j'inviterai un homme pour poser la question là, sur mon podcast, mais parce que je trouve ça quand même fascinant, cette fermeture quand même dans un certain sens à aller dans de l'autre côté. Parce que j'ai l'impression qu'en tant que femme, on doit tout le temps se mettre dans la position de savoir, bon, mais qu'est-ce qu'un homme ferait dans cette situation-là? Mais l'inverse, tu sais, comme par exemple quelqu'un qui serait intimidé ou quelqu'un qui se met tout de suite en mode séduction, c'est parce qu'il n'est pas capable de changer de position de sa position initiale, tu sais.
Exactement. Ben, c'est parce que c'est des hommes qui connaissent juste un genre de relation femme.
C'est ça.
C'est juste ça qu'ils connaissent.
Fait que je trouve ça intéressant de pourquoi il serait allé vers toi dès le début, sachant que, tu sais, le but est de un peu chambouler leur perception.
Et je pense qu'ils en sont même pas conscients. Honnêtement, c'est des patterns très, très, très inconscients. C'est pas toujours mal intentionné, honnêtement.
Ouais.
Mais oups, ça finit par sortir, tu sais, dans l'échange de messages, par exemple. Oh, tu sens que ça glisse un petit peu. Puis on en parlait justement dans mon programme Puissance féminine et prospérité, tu sais, d'autres femmes qui vivaient la même chose.
Oui, puis je pense que c'est un frein pour les femmes beaucoup, tu sais, de... Excuse-moi, je voulais pas te
couper.
Mais, tu sais, puis moi, c'est une expérience que j'ai eue personnellement de me dire, tu sais, comment est-ce que je me positionne comme femme qui doit être soit dans le mode séduction ou dans le mode succès. Puis si je suis dans le mode succès, je dois agir comme un homme puis que je dois laisser aller cette énergie-là, genre, qui est plus masculine, mais qu'après ça, quand tu te ramasses dans un groupe comme le web, j'ai trouvé ça fascinant quand j'ai commencé à travailler sur le web, parce que moi aussi, je me suis spécialisée avec les femmes, de dire, mais là, je crée un espace où cette dynamique-là n'a pas lieu d'être, tu sais, puis là, on laisse vraiment sortir un peu, ben pas juste les personnalités, mais puis là, ça mène à un autre sujet qui est quand même assez fondamental dans tes teachings, là, qui est le leadership, fait que ça laisse...
Ouais.
Ça laisse émerger, je trouve, différents types de leadership quand t'as pas la structure patriarcale, entre guillemets, qui te tient dans une camisole de force.
Oui. C'est peut-être ça où les hommes sont déstabilisés, ils sont habitués d'avoir un cadre professionnel très rigide avec leurs collègues qui sont dans un mood très professionnel, puis la vie personnelle n'a pas beaucoup place au bureau, puis là, t'arrives sur le web, puis nous, les femmes, on s'expose, on montre nos vies, on s'exprime, on prie, on montre qui on est, fait que je pense qu'il y en a certains qui sont un peu perdus avec ça. Je te dis, même encore aujourd'hui, c'est fou, là, mais c'est comme ça.
Ouais, ouais. Non, ça serait une discussion à avoir un jour, c'est ça. J'inviterais... un homme ou deux, puis
j'ai juste mentionné que c'est pas... Il y a certains hommes qui sont des hommes qui ont une certaine présence, là. C'est pas... Tu sais, des fois, on peut s'imaginer que c'est petit clin-clin des murmures, là, dans sa campagne. Non, non, non. Non, non. C'est des hommes avec des métiers professionnels.
Ouais, puis je dirais, en tout cas, le genre, on va s'embarquer, on va peut-être s'aliéner des gens, mais...
Correct.
Que plus t'es dans un métier qui est très codifié, puis là, je pense justement, je parlais l'autre fois avec mon amie Aïcha, qui est avocate, puis à quel point le milieu académique des avocats est horrible, parce que, tu sais, il y a toute cette façon de se battre pour les notes, puis de, genre, se jalouser, genre, les livres de bibliothèque, anyway, whatever. Puis... j'ai l'impression que plus tu rentres dans un champ d'expertise codifié, comme, bon, tu sais, le professorat ou des trucs comme ça, où est-ce que c'est des gens qui sont socialement reconnus, mais vont justement illustrer encore plus ou vont tenir encore plus à ce que les choses ne bougent pas dans un sens, qu'il n'y ait pas d'évolution à ce niveau-là.
Oui.
Parce qu'ils ont grimpé les échelons de... en jouant avec ces règles-là. Fait que pourquoi ils voudraient que les règles changent?
Exact. Exact. Puis ça c'est valide autant pour les hommes que les femmes dans des métiers plus professionnels, définitivement.
Vrai. Bon, puis le leadership, c'est ça, ça revient souvent dans tes programmes ces temps-ci. Puis on dirait que tout le monde en parle là, soudainement aussi. Puis dans ton positionnement, puis pour toi, ça veut dire quoi? Puis comment tu le définis? Puis comment ça se manifeste d'une personne à une autre?
Pour moi, le leadership est apparu dès les débuts comme entrepreneur, puis comme coach pour entrepreneur. Ça a toujours été un thème dont j'ai parlé, puis ça aussi, c'est quelque chose qui dérangeait pas mal les personnes plus âgées que moi qui se battaient depuis plusieurs années pour gagner de la crédibilité avec leur entreprise. Puis moi, j'arrivais, puis je parlais de leadership, tu sais. Mais pour moi, justement, le leadership, ça n'a pas d'âge, ça n'a rien à voir avec ton niveau d'expérience. c'est vraiment une posture qui part de la confiance en soi, qui part d'un désir d'aider les autres, d'un désir de faire une différence, d'un désir d'avoir un impact. L'impact, c'est une énergie. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, l'impact, ça fait énormément partie du leadership. Pour moi, c'est essentiel comme entrepreneur, surtout pour attirer des clients. Pas de leadership, pas de clients. Tu sais, un leader, c'est quand je dis go, est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Fait que si comme entrepreneur, tu dis go, puis il n'y a personne qui te suit, ben tu n'as pas de client. Donc, c'est une qualité, une habileté essentielle. C'est d'être capable aussi de réveiller quelque chose chez les gens. Donc, que ce soit de réveiller de la confiance ou réveiller la passion ou réveiller de l'inspiration ou peu importe ce que vous avez envie de réveiller chez les gens, mais ça fait partie du leadership, c'est de venir allumer quelque chose chez une autre personne pour qu'elle ait envie ensuite de faire affaire avec vous.
Puis penses-tu que tout le monde a le potentiel de développer cette qualité-là?
Définitivement. Il y a toutes sortes de couleurs de leadership. Mais tout part de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la valeur qu'on s'accorde. Une fois que ce travail-là est fait, puis ces fondations-là sont faites, puis qu'on se sent légitime, le leadership arrive naturellement. Donc, on peut rester très douce en étant leader. Ou on peut être une leader avec pas mal de punch. C'est très personnel à chacun.
Oui, parce que je pense que les gens, ils pensent à leadership, ils pensent à justement des chefs d'État puis des militaires, des choses comme ça. Mais c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment quelque chose que tu peux... Puis il y a le leadership envers soi-même aussi, je pense, qui est important aussi, puis dont tu parles souvent, là.
Oui, exactement. Ben le leadership envers soi-même, ça serait quand je me dis go, est-ce que j'y vais?
Ouais.
Ça serait ça. Puis si toi, quand tu te dis go, tu y vas pas, ben c'est assez difficile d'attirer les gens. Donc, ça veut dire quand tu mets des objectifs ou quand tu veux créer certains projets, ben si tu procrastines, si tu y vas pas, ben c'est ça qui va arriver, tu vas attirer les gens exactement comme ça.
Mm-hmm. Puis aussi de s'observer aussi dans ces... Parce que bon, j'essaie d'imaginer... Tu sais, comme le leadership, quand même, c'est d'aller chercher les forces aussi des gens qui sont auprès de toi pour aller vers un but commun. Tu sais, il y aurait peut-être aussi ce type de esprit communautaire, dans un certain sens. Puis quand tu le fais envers toi-même, c'est aussi peut-être de te demander comment... Puis là, je parle pas de bienveillance dans le sens de dire genre, OK, on va se laisser aller parce que ça va bien, ça va mal, ou des choses comme ça, mais vraiment plus de se dire où est-ce que j'en suis dans mon cheminement qui pourrait être amélioré et dès lors de, tu sais, soit travailler un peu grâce à du coaching ou des choses comme ça, de se dire je peux aller plus loin et donc je vais m'amener à ce niveau-là aussi, là.
Oui, c'est une forme de leadership de soi, définitivement.
Donc là, on a très hâte de voir ton nouveau site. Et
oui!
On a cru comprendre depuis... Bon, t'étais passée sur le podcast de Geneviève Gauvin, puis t'en avais parlé un petit peu, que là, t'allais ouvrir tes services au marché américain.
Oui.
Je voulais juste, tu sais, peut-être terminer l'épisode, la première partie de l'épisode, en te demandant, tu sais, est-ce que tu entrevois des défis, tu sais, est-ce que... Parce que là, on dirait que tu vas quand même intégrer ce marché que tu connais très bien, puis que tu as vu évoluer. Donc, comment toi, tu vas peut-être te positionner à travers tout ça, puis qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter de encore plus extraordinaire?
Ouais. Ben, je pense que... À ce point-ci, je vais être bien positionnée dans le marché américain, de un, en raison du succès que j'ai créé avec mon entreprise. Je le prends un peu pour acquis, honnêtement. Dernièrement, j'étais dans un programme, puis on devait célébrer nos résultats, puis je réalisais pas que même aux États-Unis, j'étais dans celles qui ont le plus de succès. Fait que nice. Ça fait comme, oh, OK, ouais. Donc, ma place est déjà assurée, de un. En raison de ce succès-là. De deux, mon positionnement avec ma méthode de certification, puis juste la méthode du infini. Il n'y a rien comme ça sur le marché américain. Les gens ont besoin de ça. Donc, je vais être beaucoup mieux positionnée que si je m'étais lancée comme coach d'affaires aux États-Unis il y a quelques années. Là, j'ai vraiment une place unique avec des services uniques, avec une approche unique, même mes autres programmes que j'ai développés, puissance féminine et prospérité. Il y a des programmes qui se ressemblent, mais souvent, ces programmes-là sont encore assez spirituels. Donc, ça parle à une niche très, très spécialisée. Il y en a des centaines de milliers de personnes comme ça aux États-Unis, donc c'est parfait. Mais moi, je m'adresse à des gens qui ont une approche peut-être un peu plus moderne, terre-à-terre, peut-être un peu plus urbaine même de la spiritualité. Oui.
Ouais, on va parler de ça, je pense, dans le prochain épisode, parce que je suis curieuse de... Parce que bon, tu sais, moi, je me considère quelqu'un de vraiment terre-à-terre. Ben, vraiment.
Oui.
Puis, tu sais, j'ai quand même beaucoup connecté avec ton message puis tout ça. Fait que, tu sais, de parler de cette nuance-là, puis de... Ouais, je trouve ça très intéressant comme positionnement, mais aussi que tu vas aller... J'ai hâte de voir, en fait, ce qui va sortir de ton passage aux États-Unis. J'ai pas mal de te suivre à travers tout ça. Bon, on va terminer la partie 1 ici, puis on se retrouve la semaine prochaine dans la partie 2 avec Mélissa.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarc.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!